Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus-Christ et son Église. Voilà le thème que nous reprenons aujourd'hui.
La Bible insiste sur la valeur et l'importance de l'Église. Elle emploie même plusieurs images pour nous aider à mieux comprendre la place qu'elle doit occuper dans notre vie.
Dans ses écrits, l'apôtre Paul affirme que l'Église est le temple de Dieu. Que voulait-il dire par là? Voilà le sujet de cette courte série.
Nous discuterons de cette question en compagnie de notre invité Jean-Philippe. Jean-Philippe, bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous.
Jean-Philippe, avant de lire un nouvel extrait des écrits de l'apôtre Paul, il serait bon de faire un résumé de ce que nous avons déjà appris lors de cette série.
Oui. Paul compare l'Église au temple qui existait à Jérusalem et qui était au cœur de la foi du peuple d'Israël. Il est important de rappeler que lorsque Paul parle de l'Église en tant que temple, il n'est pas du tout question de désigner des bâtiments faits de bois ou de briques. Non. Le nouveau temple de Dieu est fait de pierres vivantes. Autrement dit, il est constitué de personnes, de croyants. L'Église, le nouveau temple, est la communauté de gens qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. À ce propos, nous avons appris la dernière fois que l'Église, en tant que nouveau temple, doit reposer sur Jésus et dépendre de lui, car il en est la pierre angulaire. L'Église doit aussi reposer sur les apôtres, dont les enseignements représentent les fondations. Jésus-Christ, sa vie, son enseignement, sa mort sur la croix, sa résurrection et la promesse de son retour doivent demeurer au centre de la foi chrétienne. Les enseignements des apôtres nous aident à comprendre et à connaître Jésus. Si l'Église ne s'édifie plus sur ses fondations, elle est en danger et elle pourrait s'écrouler comme un bâtiment qui n'est pas construit selon les normes en vigueur.
Merci Jean-Philippe. Écoutons à présent un extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 16 à 23.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, « Il prend les sages à leur propre piège. » Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.
Merci. Jean-Philippe, qu'apprenons-nous de ces versets?
Nous apprenons une leçon de première importance. Le temple de Jérusalem était considéré comme un lieu saint, car Dieu, celui qui y résidait, est lui-même saint. Nous avons appris que Dieu demeure et réside au milieu de son peuple, qui est l'Église, son nouveau temple. Cependant, Dieu est celui qui est parfaitement saint, et c'est pour cette raison que l'Église et tout rassemblement de chrétiens doivent rechercher la sainteté.
Jean-Philippe, aidez-nous, s'il vous plaît, à comprendre ce qu'est la sainteté dans le contexte de l'Église. J'ai le sentiment qu'il s'agit là d'une question importante.
Effectivement, et nous passerons plus d'une émission à examiner cette question. D'abord, on peut dire que le mot « saint » signifie tout simplement « différent ». Dieu est, de par sa nature, différent de sa création. Mais cette notion de différence implique aussi une séparation et une distance, autant sur le plan spirituel que moral. Comparons par exemple une bouteille d'eau de source avec un ruisseau pollué avec des déchets humains. Il faut garder l'eau pure, séparée de l'eau polluée. Les deux ne peuvent être mélangés. Si Paul affirme que le nouveau temple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, est saint, cela signifie que Dieu, dans sa grâce et par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, nous a purifiés de tout péché, de toute impureté morale et spirituelle. Ainsi sanctifié, Dieu peut résider avec nous, il peut demeurer avec son peuple. Dieu a sanctifié son peuple, c'est-à-dire qu'il l'a rendu saint et pur. Il en ressort que son peuple est différent du monde alentour, que le chrétien est différent des autres hommes. Cependant, même si l'Église a été sanctifiée, elle doit aspirer à refléter la sainteté de Dieu en adoptant des ambitions, des attitudes, des conduites et des comportements qui se démarquent du monde autour.
Et selon Paul, si nous ne cherchons pas à maintenir cette différence entre l'Église et le monde qui nous entoure, c'est comme si nous essayions de démolir les murs du temple.
Oui, le langage de Paul est choquant et il cherche à interpeller, à avertir ses lecteurs de l'époque, à savoir les croyants de l'Église de Corinthe.
Et pouvons-nous savoir à quelles attitudes ou à quels comportements Paul aspirait exactement ?
Nous savons qu'il y avait beaucoup de problèmes d'ordre doctrinaux, moraux et spirituels dans l'Église de Corinthe. C'est pour cette raison que Paul a écrit à ses chrétiens. Nous savons notamment que l'Église était très désunie. On y trouvait des clans, des rivalités, des groupes qui se réclamaient être meilleurs que les autres. C'était vraiment très grave, et selon Paul, ces attitudes reflétaient plus la culture grecque environnante que la sainteté de Dieu. Les attitudes des uns et des autres, fortement mondaines, mettaient en péril l'unité de l'Église ainsi que sa sainteté. C'est comme si on s'attaquait au mur d'un temple et que l'on créait des brèches.
Merci de nous éclairer ainsi. Quelle leçon devons-nous retenir ?
Les églises doivent travailler pour conserver l'unité et atteindre la sainteté.
Comment faire alors ?
Il faut apprendre de Jésus et suivre son exemple. Puis, il faut veiller à ce que les mauvaises attitudes et les pratiques du monde qui nous entoure ne pénètrent pas dans l'église, car elles pourraient démolir le nouveau temple que Dieu a édifié.
Donnez-nous quelques exemples d'attitudes mondaines qui n'ont pas de place dans l'église.
En voici une. L'adoration de Jésus-Christ ne doit pas se transformer en un quelconque culte de la personnalité ou en une gloire personnelle. Ce fut un des problèmes rencontrés dans l'église de Corinthe, et de nos jours encore, ceci peut devenir une réalité, surtout avec la forte médiatisation de certains pasteurs et soi-disant prophètes et apôtres. Dans les grandes organisations telles que les administrations, les entreprises et les gouvernements, la corruption et les abus de pouvoir sont trop courants. Un responsable d'église ne doit pas abuser de sa position pour chercher des faveurs financières, sexuelles ou autres. La sainteté de l'église repose sur l'intégrité et la pureté de chacun de ses membres. Dans le monde, chacun poursuit sa propre gloire et sert ses propres intérêts, souvent au détriment de ceux des autres. Les rivalités, les jalousies et les conflits s'en suivent. Christ est un exemple d'abaissement et de service. Un exemple à suivre. La sainteté de l'Église est protégée quand chacun se met à servir l'autre, à servir la communauté des croyants, sans chercher sa propre gloire. Voici donc quelques exemples, et j'en suis sûr, chers amis, que vous pouvez penser à d'autres.
Merci Jean-Philippe. Vos propos nous interpellent et c'est à chacun de s'examiner à la lumière de ces leçons bibliques importantes. Dieu a fait de nous son temple, sa demeure. Et il nous appelle à être différents du monde. Il nous appelle à l'unité et à la sainteté. Nous reviendrons sur ce thème la prochaine fois. En attendant, Jean-Philippe, je vous dis merci.
Merci Yann. À bientôt et au revoir à tous.
À présent, nous allons écouter une courte méditation biblique. Nous reprenons notre série dans la première épître de Jean. Jafar nous fera part de ses réflexions. Mais d'abord, Sandra va nous lire 1 Jean, chapitre 3, les versets 11 à 17.
En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité.
Merci et bonjour à tous. Dans sa lettre, Jean nous donne les critères pour nous aider à distinguer les vrais chrétiens de ceux qui ne le sont pas. Nous pouvons ainsi nous examiner à la lumière de ces critères pour mieux évaluer où nous en sommes sur le plan spirituel. Jean parle de l'importance de l'amour fraternel, de l'amour vécu à l'exemple de Christ. Il va jusqu'à dire que si nous aimons sincèrement nos frères et sœurs en Christ, cela est un signe que nous marchons avec Dieu, la preuve que notre foi est authentique. Par contre, Jean affirme que si nous détestons un frère ou une sœur, l'authenticité de notre foi peut être mise en doute. Jean décrit la vraie vie spirituelle en illustrant ses propos par des exemples extrêmes, l'amour et la haine. Pour lui, tout est en noir ou en blanc. Soit nous aimons nos frères, soit nous les détestons. La vie est bien sûr plus nuancée, mais les propos de Jean sont là pour nous faire réfléchir. Malheureusement, la vie d'église et nos relations avec nos frères et sœurs ne sont pas toujours faciles. Nos frères et nos sœurs demeurent bien imparfaits, tout comme vous et tout comme moi d'ailleurs. Nous pouvons rencontrer des frères difficiles, nous pouvons vivre des malentendus, subir des offenses, recevoir des paroles blessantes. Tant d'attitudes et de comportements mettent en danger les relations fraternelles. Toutefois, même quand cela est difficile, Jean nous le demande, aimons-nous les uns les autres. Si nous avons du mal à aimer, même les frères et sœurs difficiles, pour Jean, cette attitude est révélatrice d'un problème spirituel profond. Si de la haine pour un frère ou une sœur surgit dans notre cœur, si nous sommes conscients de détester certains chrétiens, alors là, il faut tirer la sonnette d'alarme, car il est probable que nous n'avons pas tout compris sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si nous n'aimons pas notre frère ou notre sœur, aussi dur soit-il, peut-être que nous n'avons pas reçu par la foi la grâce que Dieu donne et la vie éternelle.
Merci Jafar. Ces paroles peuvent paraître dures à entendre, mais elles reflètent bien l'enseignement de l'apôtre Jean. Que chacun s'examine, car les sentiments de haine ou de rancune n'ont pas du tout leur place dans l'Église.
Nos deux séries se poursuivront la prochaine fois. En attendant, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.